Il y a des choses secondaires qui sont aussi importantes. Et on ne peut pas se contenter que de l'essentiel. Autrement, on ne mangerait pas, on ne travaillerait pas, puisque toutes ces choses sont secondaires par rapport au salut que nous avons en Jésus-Christ. Et Dieu se soucie aussi des choses secondaires, et en particulier des gens, des peuples, des rois, des gouvernants qui ne tiennent pas compte de lui. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous nous tournions vers trois chapitres de l'Ancien Testament dans le livre d'Ézéchiel. Alors le livre d'Ézéchiel dans nos Bibles habituelles, pas dans toutes, hein, puisque l'ordre que nous avons dans nos Bibles habituelles n'est pas celui qu'ont les Juifs ou l'Ancien Testament hébraïque par exemple. Mais le livre d'Ézéchiel se trouve après Jérémie, les Lamentations de Jérémie, et avant le livre de Daniel et Ézéchiel, Daniel font partie de ce qu'on appelle les grands prophètes par opposition aux petits prophètes qui ont écrit des petits textes, alors que le livre d'Ézéchiel avec Daniel, Ésaïe, Jérémie sont des livres d'une certaine importance. Ézéchiel, donc, chapitre 26 à 28. Alors, vous comprenez que, vu le temps qui nous est imparti, nous ne lirons pas ces trois chapitres ce matin, mais nous ferons quelques prélèvements, quelques extraits pour commenter notre propos. Donc, d'abord Ézéchiel, chapitre 26, vous pouvez ouvrir votre Bible au chapitre 26. Ézéchiel, pour revenir à lui, était un prêtre, prêtre de l'Ancienne Alliance, puisque vous savez que dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, il n'y a pas de prêtre. Ou plutôt, s'il n'y a pas de prêtre, c'est parce que nous sommes tous prêtres. Et nous sommes tous prêtres parce qu'il n'y a qu'un seul prêtre, Jésus-Christ. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, il n'y a pas de prêtre, nous sommes tous prêtres, il n'y a qu'un seul prêtre, mais voilà, c'est comme cela que je l'exprime, il n'y a pas de prêtre parce que nous sommes tous prêtres, et si nous sommes tous prêtres, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul prêtre, Jésus-Christ. Ézéchiel était prêtre de l'Ancienne Alliance. Il était contemporain de Jérémie, de Daniel, et il a été déporté, comme Daniel, en Babylonie, au moment de la destruction du Temple, en 577 avant Jésus-Christ. Et il consacre trois chapitres de son livre, trois chapitres, ce n'est pas rien, 26, 27 et 28, à la destruction d'une ville assez connue pour les habitués de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, une ville qui est souvent associée à une autre, Tyr et Sidon. Et c'est de Tyr dont il s'agit dans les chapitres 26, 27, 28. Sidon apparaît à la fin du chapitre 28. Tyr est une ville symbole pour nous. Et la destruction à cause du jugement de Dieu sur cette ville de Tyr, une ville païenne, une ville qui n'avait pas reçu la révélation de Dieu comme Jérusalem ou les villes d'Israël. Tyr s'était haussé au rang de puissance internationale, dont le commerce s'étendait par-delà la Méditerranée. En fait, Tyr était un port. Et les Tyriens, les habitants de Tyr, étaient essentiellement des marins. Ils excellaient dans ce domaine, un peu comme les Anglais au temps de la colonisation. C'étaient les marins par excellence. Et Tyr avait créé un comptoir, des comptoirs de colonies, dont Carthage, en Afrique du Nord, était la plus célèbre. D'ailleurs, les ancêtres des Tunisiens, ce sont des Phéniciens. Ils avaient été habités, la Tunisie, qui n'existait pas à l'époque, bien sûr, par des Tyriens, par des Éphésiens. Ésaïe, qui consacre un chapitre, 23, à la ville de Tyr, dit que les Tyriens, il les appelle les princes de la Méditerranée orientale. L'étymologie de Tyr, en hébreu, c'est rocher. C'est une pierre dure comme du diamant. Effectivement, cette ville était bâtie sur un roc. Elle est mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Alors que Tyr a été détruite dans l'Ancien Testament, Jésus dit que si Bethsaïda, où il se trouve, et qui ne reçoit pas Jésus ou les miracles que Jésus fait, qui sont l'évidence même de la visite de Dieu parmi son peuple, si Tyr et Sidon avaient reçu les mêmes miracles, ils se seraient repentis. Aujourd'hui, l'emplacement où se trouvait autrefois la ville de Tyr est un site pour touristes où les pêcheurs étendent leurs filets, comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Ce qui a survécu de cette époque de jugement dont nous parle Ézéchiel, et là je cite la Bible annotée qui dit, c'est l'épave qui témoigne de son naufrage. La parole de Dieu exprimée à Ézéchiel s'est accomplie à la lettre, au cours de différents siècles. D'abord Nebuchadnezzar, donc Ézéchiel a été déporté parce que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu détruire Jérusalem et il a détruit aussi ensuite la ville de Tyr. Mais ensuite c'est Alexandre le Grand qui a tout rasé. Et cette prophétie d'Ézéchiel concerne par son accomplissement, quelques siècles plus tard, les Grecs avec Alexandre le Grand. Nebuchadnezzar a assiégé cette île de Tyr pendant les 13 années qui ont suivi la chute de Jérusalem. Et Alexandre le Grand a pris cette île après un siège de 7 mois. Tyr était donc une ville païenne. Le culte de Baal venait de là. Jézabel, la femme d'Akab, dont il est question dans l'Ancien Testament, livre des rois, était fille du roi de Sidon. Le chapitre 26 annonce la destruction de Tyr. Au verset 2, « Parce que Tyr a dit contre Jérusalem, ha-ha, elle est brisée, la porte des peuples. » Jérusalem venait d'être détruite par les armées de Nebuchadnezzar, et Tyr se réjouit du malheur de Jérusalem. Tyr acclame l'élimination d'une rivale commerciale. Et Dieu qui se présente comme celui qui règne, comme le maître de l'histoire, va juger à son tour et détruire aussi la ville de Tyr. Il va la réduire en poussière, verset 4. « J'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où on étendra les filets. » Et s'agissant d'une puissance maritime, Ézéchiel va utiliser une image, une métaphore, pour décrire la fin de Tyr. Il va la comparer à un navire dont il suit la carrière de sa construction à sa destruction. Et nous lirons les versets 5 à 8. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets, car c'est moi qui ai parlé, oracle du Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles qui sont dans les campagnes seront tuées par l'épée, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'amène du nord contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, etc. Alors là, je me suis trompé un peu dans mes références, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Voilà, c'est du verset 3 au verset 11, en fait, que nous avons un petit peu plus loin. Cette image, cette métaphore, ben on va continuer la lecture au verset 9. Il dirigera les coups de son bélier contre les murailles, renversera ses tours avec ses machines, la foule de ses chevaux te couvrira de poussière, tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, etc. Au verset 12, on prendra tes richesses, on pillera tes marchandises. Au verset 13, je ferai cesser le tumulte de tes champs. Au verset 14, je ferai de toi un rocher nu. Au verset 19, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai de toi une ville en ruine, comme les villes qui n'ont pas d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme. Les ingénieurs, les commerciaux, les PDG de la ville de Tyr, tous ces gens-là étaient au service de la puissance maritime de Tyr. Mais Dieu n'était pas le pilote de ce navire. L'image de nos sociétés modernes, où notre économie mondiale s'évalue en termes de balance commerciale, ressemble comme deux gouttes d'eau à cette ville de Tyr. Parce qu'aujourd'hui, ce qui détermine notre croissance, ce n'est pas le spirituel, ce n'est pas notre rapport à Dieu, c'est notre capacité de vendre nos produits à l'étranger, d'en vendre plus que ce que nous importons. Alors certains pays sont passés maîtres en la matière, les Chinois. La plupart des produits que nous achetons aujourd'hui sont des produits en provenance de la Chine. Les États-Unis se débrouillent pas mal, les Allemands paraît-il aussi. Les Russes sont à la traîne, les Français avalent leur chapeau dans le seul but de signer des contrats. C'est ça qui détermine notre puissance, notre force. Et ne soyons pas hypocrites, nous en profitons, nous en vivons quand même assez bien. Lorsqu'on peut commercer avec le monde entier, alors on en profite, on vit mieux. Et les habitants de Tyr, les Tyriens, commerçaient avec la ville de Tarsis. Il est question à plusieurs reprises de Tarsis dans ces chapitres. Vous vous souvenez de Jonas ? Jonas qui est parti à Tarsis parce qu'il voulait fuir le Seigneur. Alors, on ne sait pas trop où se trouve Tarsis, mais on le situe en Espagne, c'est-à-dire pour quelqu'un qui habite la côte de la Palestine ou de la Phénicie, l'endroit le plus éloigné de la Méditerranée. Et puis, il est question aussi des Grecs, il est question de la Syrie, il est question d'Israël, il est question de l'Arabie. Le verset 25 nous dit « Tu étais au comble » du chapitre 27 « Tu étais au comble de la richesse et de la gloire » au verset 24 « Il faisait avec toi » du chapitre 27 « Le commerce de luxe, manteaux violets, broderies, collection d'étoffes, cordes liées et serrées » à l'intention de ton commerce. Il paraît qu'il y a un commerce qui rapporte pas mal aux Français, qui marche très bien, c'est le commerce de luxe. Il paraît que lorsqu'il y a eu le problème un peu des montres en Suisse, de l'horlogerie en Suisse, l'horlogerie de luxe se portait très bien, n'était pas atteinte par le chômage. Oui, cette compagnie maritime recherchait les contrats commerciaux. Et on peut noter que Tyr recherche exclusivement en Israël, parce que Tyr commerçait avec Israël, les produits de consommation sans mentionner sa richesse spirituelle. Jérusalem, Israël, aurait dû être un phare, une lumière parmi les nations. la lumière de la révélation de Dieu. Dieu s'était révélé à ce peuple et à travers lui aux autres peuples. Mais Tyr ne s'intéresse qu'à une chose, le commerce. Il ne mentionne pas la richesse spirituelle du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Tyr va faire naufrage. Il est un peu comme le Titanic, bateau insubmersible qui devait voguer sur les grandes mers et sur les grands océans, mais qui a sombré et qui se retrouve au fond de l'océan. La mer qui a fait la richesse de Tyr est devenue son tombeau. Verset 26 du chapitre 26, « Les rameurs t'ont fait voguer vers les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés, tes marchandises, tes marins et tes matelots, ceux qui réparent tes avaries et ceux qui négocient tes marchandises, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et parmi le rassemblement qui est au milieu de toi, tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Tyr est tombé. » Et en tombant, Tyr devient le symbole ou l'avertissement de tous les peuples, de toutes les villes qui ne tiennent pas compte de Dieu. Et un jour, Dieu les jugera comme il a jugé Tyr. Le chapitre 28 nous servira de conclusion. Lisons les 5 premiers versets, chapitre 28. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège des dieux, au cœur des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Voici que tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse. Et par ta richesse, ton cœur est devenu arrogant. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Me voici. Je fais venir contre toi des étrangers les plus violents parmi les nations. Ils profaneront ta splendeur. Tu mourras de la mort des vaincus. En face de ton meurtrier, diras-tu encore « Je suis Dieu ?» Tu resteras homme et non Dieu. On a l'impression de lire ici une description de notre monde moderne, occidental. Nous aussi, nous avons cet orgueil de croire que nous sommes meilleurs que les autres, orgueil de croire que nous pouvons nous passer de Dieu. Il s'agit ici, bien sûr, du portrait du roi de Tyr, mais derrière lui se profile celui d'Adam, placé dans le jardin d'Éden. Certains y ont vu le portrait de Satan, qui par son arrogance, en voulant être comme Dieu, a été précipité aussi. C'est le portrait de tous ceux qui refusent de reconnaître une puissance supérieure à la leur, celle de Dieu. Verset 2, le cœur de ce roi est rendu arrogant. Verset 2 encore, il met sa confiance en lui. Verset 5, il est riche et sa richesse le rend arrogant. C'est là l'image de notre monde, sûr de son intelligence, de sa capacité à gérer ses problèmes sans Dieu. C'est l'image d'un monde qui met sa confiance dans son économie, dans son pouvoir d'achat, dans son argent, dans ses banques, dans l'accumulation de ses richesses, dans son intelligence. Par leur conduite qui ne tient pas compte de Dieu, les hommes encourent le même jugement. Je ne sais pas si le roi de Tyr a eu connaissance de la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel s'adressait en premier lieu, bien sûr, à son peuple, ce peuple déporté. Et son livre est essentiellement écrit pour dire que Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'est pas parce qu'il est loin de son pays, c'est pas parce que le peuple est détruit que le temple est détruit aussi, que Dieu abandonne son peuple. Dieu est toujours présent au milieu de son peuple, auprès de celui qui veut l'invoquer. Mais Dieu veut que ce peuple qui s'est éloigné de lui par ce jugement qu'a été la déportation à Babylone revienne à lui, retrouve en Dieu la communion qu'il a négligée, retrouve en Dieu les commandements de Dieu qui sont sages. Mais en parlant de Tyr, de Sidon, des autres pays aussi, Dieu veut se faire connaître aux nations. À plusieurs reprises, il y a cette petite phrase qui revient au chapitre 26 et au chapitre 28, « Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. » Oui, un jour, mais ce sera sans doute trop tard, l'on reconnaîtra, le monde entier, les hommes du monde entier reconnaîtront que l'Éternel est Dieu. Dieu avait fait d'Ézéchiel un guetteur sur la maison d'Israël pour dire la parole de Dieu, pour avertir son peuple de la pertinence de sa parole. Dieu a mis en œuvre ce qu'il a annoncé. Tyr a été détruite, Tyr a été rasée. Le peuple de Dieu est toujours là, Dieu est vainqueur. Le rôle de notre Église, du peuple de Dieu, celui de notre témoignage de chrétien et d'être aussi des veilleurs comme Ézéchiel, de dire la parole de Dieu comme lui-même, de la transmettre et d'annoncer aussi le jugement de Dieu sur les impies. Mais c'est aussi à nous d'avoir un mode de vie différent, de penser différemment du monde, de penser différemment de ceux qui vivent sans se soucier de Dieu. Et ça, c'est pas toujours facile, car nous sommes comme dans un mouvement et nous participons à ce même mouvement. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » À nous de nous placer devant le Seigneur pour que nous soyons des veilleurs, des témoins de sa grâce toujours existante. Et si Dieu utilise le temps, un temps assez long, avant d'exercer les jugements, avant que sa parole s'accomplisse, c'est aussi pour que le temps de la grâce puisse être suffisamment long pour que les gens se tournent vers lui. À nous aussi d'être employés par Dieu pour annoncer sa parole. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, bien entendu. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui qu'hier, je ne sais pas, peut-être pas. Ça a toujours été difficile parce que c'est un combat. Mais que le Seigneur nous aide aussi à nous soucier des autres. Dieu s'est soucié de la ville de Tyr. Trois chapitres sont consacrés à cette ville, une ville païenne qui aurait pu être négligée par Dieu ou simplement abandonnée par Dieu, mais non. Dieu annonce son jugement sur cette ville, et quand Dieu annonce un jugement, c'est pour qu'on en tienne compte. Oui, Dieu s'intéresse à notre monde. Il s'intéresse à notre 14 juillet, peut-être, je ne sais pas. Même si c'est secondaire, c'est vrai, je confirme. Il y a des pays qui n'ont pas eu de révolution comme sanglante. Souvent, les révolutions, c'est peut-être même contenu dans le mot, sont des révolutions sanglantes. C'est terrible quand il y a des milliers de morts. Mais aujourd'hui, Dieu s'intéresse à l'Égypte avec son gouvernement. Dieu s'intéresse à la Tunisie, avec son gouvernement. Dieu s'intéresse à la Chine avec son gouvernement. Dieu s'intéresse à la France avec son gouvernement. Il nous demande de prier pour les autorités, que nous les aimions ou pas, que nous soyons d'accord ou pas. Prions pour nos autorités. Prions pour que Dieu soit honoré, que nous puissions témoigner de notre foi et rappeler ces paroles de vérité qui sont contenues dans sa parole. Prions Dieu. Seigneur, si tu ne t'étais pas intéressé à ce monde perdu, ce monde où règne le péché et le mal, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce que dans les siècles passés, tu as envoyé des hommes, des femmes, à travers le monde pour annoncer ta parole, pour la recopier pendant des siècles et des siècles, inlassablement, de génération en génération, pour qu'elle nous parvienne aujourd'hui. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu annonces ce qui va arriver, c'est parce que tu veux que les hommes se tournent vers toi. Aide-nous, Seigneur, à savoir vivre de ta parole, t'honorer par notre vie, par notre humilité et non pas notre orgueil à nous croire dépendants de notre économie, supérieurs aux autres, plus intelligents que les autres. Aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Bénis encore ta parole dans notre cœur. Et en ce 14 juillet, bénis notre pays. Bénis ses gouvernants, qu'ils puissent agir avec sagesse, même sans se rendre compte peut-être de ton action à travers eux ou ton action dans notre pays. Nous te prions, Seigneur, aussi pour tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe ferroviaire, tous ceux qui sont meurtris dans leur chair ou qui ont perdu un être cher. Te prions, Seigneur, pour que nous soyons sensibles aussi aux besoins de ceux qui nous entourent. Ta parole est la vérité. Tu es toi-même le chemin, la vérité et la vie. Tu es rempli de compassion pour notre monde et pour nos contemporains. Aide-nous, Seigneur, encore à être ton instrument pour que tu agisses aujourd'hui comme tu as agi hier. Bénis cette journée, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.